Bonjour à chacun, chacune. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ça va venir, d'attraper ce genre d'insecte entre vos mains? Une sauterelle. Je me souviens quand les enfants étaient plus petits, maintenant Tom c'est plus forcément son dada, hein. On attrapait les sauterelles parfois dehors pendant l'été dans le jardin. Et c'est vrai que c'est un petit défi, elles sautent, on essaie de les attraper. Et une sauterelle, ça nous fait peut-être beaucoup moins peur, ou en tout cas dans l'imaginaire ou dans la conscience collective, qu'une araignée, par exemple. On n'imaginait pas essayer d'attraper une araignée. Peut-être que ça vous arrivait, mais c'est moins sympathique, on va dire. Ou un serpent, ou je ne sais quoi. Mais une sauterelle, on se dit, c'est gentil. C'est mignon, une sauterelle. Une sauterelle, c'est mignon. Mais des millions ou des milliards de sauterelles, c'est beaucoup moins mignon. Une invasion de sauterelles, ça peut faire des dégâts immenses, extraordinaires. Et pourquoi je vous parle de sauterelles ce matin? C'est parce que, comme Daniel l'a dit, nous allons entamer une nouvelle série de 5 prédications sur le livre du prophète Joël. Et le prophète Joël met en avant, ou en tout cas les sauterelles sont mises en avant d'une manière très particulière par ce prophète, par le prophète Joël. Mais avant de nous plonger dans la lecture du premier chapitre, de cette première section du livre de Joël, je voudrais juste revenir sur quelques éléments d'introduction, parce que j'imagine que Joël, ce n'est pas forcément le livre qu'on lit le plus régulièrement, le plus souvent. Il y a plutôt les évangiles, les lettres de Paul, qui sont nos lectures quotidiennes, peut-être moins le prophète Joël. Et c'est bien aussi de savoir qui est Joël et quel est son message. Alors l'auteur, ça c'est simple, c'est Joël, comme la prophétie indique son nom. Le verset 1 nous apprend donc qu'il s'appelle Joël, ce qui signifie « l'Éternel est Dieu ». Et vous savez que les noms en hébreu ont une signification importante. L'Éternel est Dieu. On sait qu'il est aussi le fils d'un certain Pétuel. Mais cela ne nous aide pas vraiment à savoir qui est Joël. Parce que Joël, en fait, ne peut être identifié avec aucun des 12 autres personnages qui portent le même nom dans le Saint Testament. En fait, on ne sait rien, finalement, sur ce Joël, mis à part son prénom et qu'il est le fils de Pétuel. Mis à part ces deux informations très succinctes, du verset 1, nulle part dans le reste de sa prophétie, le prophète Joël ne parle de lui-même. C'est un illustre inconnu, si on peut s'exprimer ainsi. C'est en tout cas un exemple frappant du messager qui s'efface devant son message. Donc Joël, on sait juste son prénom. On ne sait rien d'autre sur lui. La date. Au contraire de la plupart des autres livres, des autres prophéties de l'Ancien Testament, aucune date, ni aucun roi n'est mentionné au début de la prophétie de Joël. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir avec certitude à quel moment Joël a parlé au peuple de Dieu. Et ce qui a donné lieu donc à de nombreuses hypothèses. Aujourd'hui, la majorité des commentateurs, des interprètes, pensent que Joël a prophétisé entre 830 et 825 avant Jésus-Christ, 8 siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ce qui fait de Joël un contemporain du prophète Élie. Prophète Élie, peut-être certains, vous savez de qui il s'agit avec les nombreux miracles dont il est l'origine. Donc le prophète Élie qui prophétisait à ce moment-là dans le royaume du Nord, Israël était séparé en deux, Élie qui prophétisait dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et Joël qui prophétisait dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, un contemporain. Pourquoi cette date de 830 à 825 avant Jésus-Christ ? 3 raisons principalement par rapport à cette date-là qui conduisent les commentateurs à penser que c'est vers le 8e siècle que Joël a prophétisé. D'abord, bien que Joël cite différentes catégories socio-professionnelles, on peut dire ainsi, dans sa prophétie, à aucun moment il ne mentionne un roi, comme s'il n'y en avait pas. Et cette période de 830 à 825 possède cette particularité d'être une période où il n'y avait pas vraiment de roi en Israël. Pourquoi ? Parce que quelques années auparavant, peut-être certains qui connaissent l'histoire biblique s'en souviendront, une reine païenne, Athalie, a pris le pouvoir sur le royaume et a cherché à exécuter tous les descendants de la lignée de David. Elle les a tous exécutés, sauf un petit enfant, un petit bébé qui devait avoir 1 an, 2 ans maximum à cette époque-là et qui s'appelait Joas. Et cet enfant va être caché par le prêtre Jehoiada et sa femme, son épouse, dans le temple de l'Éternel. Et quelques années plus tard, à l'âge de 7 ans, Joas va être mis en avant, va devenir roi, on va mettre de côté Athalie, elle va mourir, et vous imaginez bien, Joas à 7 ans ne pouvait pas gouverner, j'imagine pas ma fille Léane qui a 7 ans gouverner la France, donc, ne pouvait pas gouverner. Donc il y avait un régent pendant le temps de la minorité de Joas. Ce régent, c'était le prêtre Jehoiada qui avait sauvé cet enfant, qui avait préservé la ligne de David. Davidique, ce qui est vraiment essentiel, hein, parce que si la ligne davidique avait été éteinte, nous n'aurions jamais pu attendre Jésus-Christ. Donc c'est vraiment un point essentiel. Et donc, Joël a sans doute prophétisé à ce moment-là, alors que Joas était encore mineur, et donc il n'y avait pas vraiment de roi, pour ainsi dire, à ce moment-là. Un autre élément qui nous fait pencher sur cette date, c'est que Joël ne cite pas des empires qui avaient la mainmise sur le Moyen-Orient à cette époque-là, l'empire d'Assyrie, l'empire babylonien, les Perses, qui sont des empires qui sont arrivés plus tard que cette date-là. Donc ce serait pour ça aussi qu'il ne cite pas ces empires. Et enfin, le style de vie de Joël, qu'on retrouve un peu dans ce livre, est plus proche de celui de prophètes comme Osée, comme Amos, qui ont vécu à cette période-là à peu près, plutôt que d'autres prophètes qui ont vécu plus tard. Donc voilà les explications pourquoi 830-825, sans qu'on ait une certitude absolue sur cette date-là. Dans tous les cas, le fait que la date du livre soit pose question parmi les différents interprètes, a peu d'impact sur son interprétation, parce que le message de Joël est un message intemporel. Et je crois que ce message de Joël nous parle encore aujourd'hui au XXe siècle, après Jésus-Christ. Le lieu de rédaction, je l'ai dit un peu, c'est sans doute à Jérusalem. Au vu de la place qu'occupe le temple, Jérusalem, le royaume de Juda, dans la prophétie de Joël, c'est sans aucun doute à Jérusalem même qu'était établi Joël, et qu'il a sans doute prophétisé devant le temple, comme à une autre époque le prophète Jérémie, comme bien plus tard l'apôtre Pierre, au moment de la Pentecôte. Joël était sans doute dans cette même situation, devant le peuple, face au peuple, dans le temple, pour prophétiser ce qu'il a annoncé de la part de Dieu. Les circonstances. Comme je vous l'ai dit, le livre de Joël a été écrit à l'occasion d'un fléau particulièrement violent pour le peuple de Juda. Ce fléau, c'est une grave période de sécheresse accompagnée d'une invasion massive de sauterelles qui ont détruit toute la végétation du pays. Et Joël interprète cet événement particulier comme un jugement de Dieu contre son peuple. Un jugement de Dieu qui a pour objectif que le peuple revienne vers Dieu pour se repentir. Le thème principal de ce livre, un terme qu'on va retrouver à de multiples occasions dans ce livre, c'est le jour de l'Éternel. Ce terme, jour de l'Éternel, est employé à 19 reprises dans l'Ancien Testament par 8 auteurs différents et à 4 reprises dans le Nouveau Testament. Mais c'est Joël qui est celui qui développe le plus ce sujet, puisque ce terme, on le retrouve 5 fois dans sa prophétie, 3 fois dans le texte qu'on va lire ce matin. Le jour de l'Éternel, qu'est-ce que c'est que ce jour de l'Éternel? Le jour de l'Éternel désigne 2 jours à bien distinguer. Et c'est essentiel de faire bien cette distinction. D'abord, il désigne, ce jour de l'Éternel, différents jours dans l'histoire présente, dans l'histoire de notre monde, associés à différents cataclysmes naturels, comme un tremblement de terre, une tempête, ou dans notre cas, une invasion de sauterelles. Le jour de l'Éternel désigne donc une journée, un jour, où Dieu intervient de manière claire, identifiée, pour juger un peuple païen ou pour juger son propre peuple à travers un cataclysme, une situation difficile pour le peuple. Il y a donc plusieurs jours de l'Éternel au cours de l'histoire biblique. Et on retrouve cet aspect du jour de l'Éternel dans les chapitres 1 et 2 du prophète Joël, où c'est la situation présente, ou l'avenir proche de Joël qui est décrite. Et le jour de l'Éternel, ça décrit aussi un jour bien spécifique, un jour, lui, qui est unique, un jour où Dieu décidera de mettre fin, de mettre un terme à l'histoire de notre monde, où l'ensemble de l'humanité sera jugé par Dieu. Les différents jours de l'Éternel de cette époque, de ce monde, sont quelque part des préfigurations du jour unique, dernier, où l'Éternel exercera son jugement sur chacun d'entre nous. Et ce jour-là est décrit plus précisément dans les chapitres 3 et 4, les deux derniers chapitres du prophète Joël. Donc l'invasion des sauterelles que le prophète décrit au début de son livre, chapitres 1 et 2 à peu près, est donc un préliminaire, un avant-goût au jour de l'éternel final, unique, qui se déroulera à la fin des temps et qui décrit dans les deux derniers chapitres de Joël, chapitres 3 et 4. Le jour de l'éternel désigne donc une période de jugement. Dieu vient juger. C'est ça le message du jour de l'éternel. C'est un jour où Dieu règle ses comptes en exerçant ses jugements, mais en même temps. C'est aussi un jour d'espérance et de bénédiction que le jour de l'éternel. D'espérance pour tous ceux et toutes celles qui se repentent devant Dieu, qui lui demandent pardon. C'est pourquoi nous avons choisi comme titre pour cette série de prédications sur le livre de Joël, ce titre qui englobe bien le message du prophète Joël, le jour de l'éternel, un jour de jugement et un jour de grâce aussi. Et pour cette série de prédications, nous allons avoir donc 5 prédications. 2 prédications sur la première partie, sur le jour de l'éternel présent, au chapitre 1 et 2. Et 3 prédications sur la deuxième partie, sur le jour de l'éternel futur, le jour de l'éternel final, sur les chapitres 3 et 4. Et vous voyez cette notion de jugement et de grâce qui revient à différentes reprises dans ce livre de Joël. On a fait le tour de l'introduction. Après cette introduction un peu plus longue, je vous propose maintenant de nous plonger nos regards dans le texte de la Bible du prophète Joël. Et je vous propose vraiment à chacun de prendre vos Bibles devant vous. Si vous n'avez pas de Bible et vous avez ces Bibles-là devant vous sur les bancs, c'est à page 587. Et on va lire ce texte à 3 voix avec Patrice et Chantal. De manière à... Mon objectif, c'est de vous permettre de ressentir le plan, un plan thématique que je veux ressortir de ce texte. Donc on va lire Joël du verset, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 11. Parole de l'Éternel, adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra.
Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré.
Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche.
Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Non. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi.
Lamente-toi comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse.
Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont dévastés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier flétri, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes.
Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit habillés de sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides ont été retenues loin de la maison de votre Dieu. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel.
Quel jour terrible! Oui, le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant.
La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les entrepôts sont en ruine, car il n'y a pas de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont effrayés parce qu'ils n'ont plus de pâturage, et même les troupeaux de brebis dépérissent.
C'est vers toi que je crie, Éternel.
Car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme brûlait tous les arbres des champs. Les bêtes sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert.
Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes.
Voici un peuple nombreux et puissant, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil, de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat.
Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse. Tous les visages pâlissent de frayeur.
Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de la route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entre par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat.
L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter ?
Suite à cette lecture, et avant de donner quelques commentaires, quelques applications sur ce passage, je veux d'abord vous préciser que ce texte est sujet à différentes interprétations, différentes compréhensions. À propos du chapitre 1, d'abord, certains pensent que l'invasion de sauterelles est une invasion réelle, littérale, qu'elle a vraiment eu lieu. D'autres pensent que cette invasion est symbolique, qu'elle symbolise quelque chose d'autre. À propos du chapitre 2, certains pensent qu'il s'agit de la description d'une armée ennemie qui vient à la conquête du pays de Juda. D'autres pensent qu'il s'agit encore d'une invasion de sauterelles, soit une autre invasion, une seconde invasion, soit la même invasion que celle qui est décrite au chapitre 1. Il y a différentes visions, réflexions par rapport à cette prophétie. Pour ma part, je vous exposais ce texte en partant de l'a priori que ces deux chapitres évoquent une seule et même invasion de sauterelles qui a réellement eu lieu sur le pays de Juda à l'époque de Joël. Et si on part de cet a priori-là, voilà en résumé ce qui se passe dans ce texte. Joël commence son livre par décrire les choses qu'il est en train de voir. Au chapitre 1, versets 2 à 12, il est en train d'écrire et décrit ce qu'il voit. Une situation difficile, très compliquée. Il regarde ensuite le peuple qui se rassemble en masse au temple pour se lamenter face à cette catastrophe. C'est le chapitre 1, versets 13 à 14. Et par la suite, Joël évoque le fléau depuis son origine, en se replaçant en pensée au début de l'événement, pour décrire son déroulement. Tout d'abord, il y a eu une période de sécheresse, chapitre 1, versets 16 à 20. Et cette période de sécheresse était annonciatrice d'une catastrophe plus grave encore, que Joël identifie avec le jour de l'Éternel, chapitre 1, verset 15, et chapitre 2, verset 1 à 2. Ce jour de jugement arrive, finalement, sous la forme d'une invasion de sauterelles, et ce qui nous est décrit au chapitre 2, versets 3 à 10. Et le prophète termine cette section en expliquant que cet événement est un châtiment de Dieu contre son propre peuple. Il s'agit donc bien de saisir que cette prophétie de Joël n'est pas chronologique dans ce passage, ce qui n'est pas rare dans la Bible. Ce que dit Joël au chapitre 2 se passe avant ce qui est évoqué au chapitre 1. Et nous allons voir ensemble trois aspects essentiels de cette invasion de sauterelles que j'ai essayé de souligner avec cette lecture à trois voix, avec Patrice et Chantal. D'abord, cette invasion a un impact matériel énorme sur le peuple. Ensuite, cette invasion doit pousser le peuple à réagir. Et enfin, et c'est le plus terrible, cette invasion est dirigée par Dieu lui-même contre son peuple. D'abord, une invasion qui a un impact énorme matériellement sur le peuple. Le pays de Juda, le pays et Jérusalem en particulier, sont frappés par une grande période de sécheresse suivie par cette invasion de sauterelles. Et les spécialistes nous expliquent que ce double fléau, sécheresse plus sauterelles, est relativement logique. Car lorsqu'il ne pleut pas suffisamment au printemps, les œufs pondus par les sauterelles n'ont pas péri, noyés dans l'eau, ce qui fait que la population de sauterelles peut exploser littéralement. Il peut y avoir des millions et des milliards même de sauterelles. Pour nous, chrétiens occidentaux du XXIe siècle, cette invasion de sauterelles peut sembler être un micro-événement dans l'histoire du monde, à l'échelle de l'histoire du monde. Mais pour ceux qui la subissent, cette invasion de sauterelles, c'est un cataclysme, une véritable catastrophe. Et c'est ainsi qu'il faut vraiment saisir ce que dit Joël à ce moment-là. Joël explique que cette invasion a un impact matériel énorme sur trois aspects en particulier. D'abord, le plus logique, sur toutes les cultures. Le verset 4 nous fournit une première indication des dégâts. Chapitre 1, verset 4, il dit « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré, ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. » Tout a été dévoré. En hébreu, il n'y a pas moins de 9 termes, 9 mots différents pour appeler une sauterelle. Et si on traduit littéralement ce qui est écrit là, voilà ce qui est écrit. Ce qu'a laissé le trancheur, l'essaimeur l'a dévoré. Ce qu'a laissé l'essaimeur, le lécheur l'a dévoré. Ce qu'a laissé le lécheur, le rogneur l'a dévoré. Ce que Joël veut souligner ici dans ce passage, c'est que tout ce qui pouvait être dévoré a été dévoré. Et le fait qu'il utilise différents termes montre que vraiment l'action, la puissante action de destruction qu'ont été les sauterelles dans le pays. Le fait qu'ils n'ont absolument rien laissé derrière eux est renforcé par la signification de leur nom aussi. Il n'y a plus rien en termes de culture. Suite au passage des sauterelles, toutes les cultures sont anéanties. Et cela est répété à trois reprises. Chapitre 1, versets 7, 10 et 12. Par exemple, au verset 7 du chapitre 1, il dit « Il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. » Les rameaux de la vigne ont blanchi. Après avoir dévoré les feuilles, les sauterelles s'attaquent même à l'écorce. C'est pour ça que les rameaux ont blanchi. Il paraît qu'après le passage d'une nuée de sauterelles, les arbres sont dépouillés et ont un aspect blanc, parce que les sauterelles mangent même l'écorce, un aspect lugubre. Et si elles s'arrêtent au bois nu, qu'elles ne vont pas plus loin, c'est qu'il y a encore d'autres choses à dévorer. Et ces sauterelles dévorent tout ce qui est sur leur passage. Et partout où les sauterelles sont passées, non seulement les récoltes de l'année sont détruites, mais les récoltes de l'année suivante aussi sont détruites. Cette attaque de sauterelles est une véritable catastrophe. Et le prophète compare constamment cette attaque de sauterelles à une armée de soldats, pour ainsi dire, en marche, qui s'étend en perte de vue. C'est ce qu'il dit au chapitre 2, verset 4. « Allez voir, donc à voir ces sauterelles, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. » À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu. C'est une armée. Mais une armée qui vient conquérir, qui vient tout détruire au niveau des cultures. Chapitre 2, verset 3. Le royaume de Juda est comparé au jardin d'Éden avant le passage de ces sauterelles. Et cette comparaison est une manière poétique de dire qu'avant le passage de ces sauterelles, ce pays était le pays où coule le lait, le miel, comme il nous est décrit dans d'autres passages dans l'Ancien Testament. Un pays fructueux, un pays merveilleux. Mais là, c'est un désert aride. Il n'y a plus rien, absolument plus rien. Cette invasion aussi un impact, bien sûr, sur l'ensemble du bétail. Chapitre 1, verset 18. « Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont effrayés parce qu'ils n'ont plus de pâturage. Et même les troupeaux de brebis dépérissent. » Dans une société de type agricole, comme celle de Juda à cette époque, les plantations servent à nourrir les hommes, mais aussi tous les animaux, bien entendu. C'est pour une raison ou une autre, les récoltes sont trop nombreuses, faibles, eh bien, les éleveurs sont tout simplement forcés, obligés de tuer leurs animaux, d'abattre leurs troupeaux. Et la détresse du bétail est telle que même le bétail se tourne vers l'Éternel. Chapitre 1, verset 20, « Les bêtes sauvages crient aussi vers toi. » Les bêtes sauvages crient aussi vers l'Éternel. Et enfin, dernier élément essentiel, l'impact le plus important, c'est sur le service du temple. Le problème n'est pas tant lié au sacrifice d'animaux, à proprement parler, qui était nécessaire dans l'Ancien Testament. Car dans des temps pareils, dans des situations tellement difficiles, je pense que personne n'hésitera à sacrifier un animal pour Dieu. Mais le problème est plutôt lié aux offrandes de farine, d'huile d'olive, de vin, qui devaient accompagner systématiquement et obligatoirement ces sacrifices, d'après le Lévitique, chapitre 2. Les sauterelles ont dévasté le pays à un tel point qu'il ne reste même plus rien pour l'offrande à Dieu dans le temple, pour le service du temple. C'est ce qui est décrit au chapitre 1, verset 9. Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. On ne peut plus avoir le service dans le temple de l'Éternel. À cause de cette catastrophe, les prêtres sont en deuil parce que le service du culte de l'Éternel est restreint. Plus loin, verset 9, pareil, les prêtres, les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Verset 16, il est dit, la joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu ? La joie et l'allégresse ont disparu de la maison de l'Éternel. Le texte nous montre ici que pour Joël, pour les prêtres, l'impact le plus grave de cette invasion de sauterelles est celui qui est lié au service de l'Éternel, du temple. Puisque les offrandes quotidiennes ne peuvent plus avoir lieu, cette invasion a aussi un impact sur le domaine religieux, liturgique du peuple de Dieu. C'est une invasion qui doit pousser le peuple à réagir. L'énorme impact de cette invasion matérielle, comme on l'a vu, suivi par une famine très sévère dans le pays, doit faire réagir le peuple. Et Joël utilise cet événement comme un catalyseur pour envoyer des paroles d'avertissement au peuple de Juda. Il appelle le peuple à réagir de 7 manières différentes face à cette invasion. Ces 7 appels à réagir, on les retrouve éparpillés dans le texte, à différents endroits. D'abord, il appelle à la crainte. Chapitre 2, verset 6. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Face à une situation si catastrophique, le peuple doit être saisi d'angoisse, littéralement. Et pour bien comprendre quelle crainte et quelle douleur le peuple de Dieu devait ressentir à ce moment pareil, il faut savoir que le mot hébreu pour saisir d'angoisse est souvent utilisé pour les douleurs d'une femme enceinte qui va accoucher. Par exemple, en Jérémie 4, verset 31, il dit « J'entends comme la plainte d'une femme en travail, comme des cris d'angoisse d'une mère accouchant de son premier enfant. Ce sont les cris que pousse la fille de Sion. Elle suffoque et elle tend les mains. Malheur à moi, je suis à bout de souffle face au tueur. » Saisir d'angoisse, craignez ce jour. Deuxième réaction, écoutez, chapitre 1, verset 2, « Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres ?» La gravité de la situation exige une écoute attentive de la part du peuple. Joël leur demande s'il y a un seul d'entre eux a le souvenir d'avoir jamais entendu parler d'une telle calamité, d'une telle détresse. Cette question de rhétorique demande en réponse un non franc et massif. Jamais personne dans cette génération, dans les générations précédentes, n'a eu à vivre une calamité aussi extrême, une situation aussi précaire. Et cela met l'accent sur la sévérité de la plaie. Si on n'est pas prêt à écouter le message de l'Éternel, du prophète, à ce moment-là, dans une situation pareille, on ne sera jamais prêt à entendre Dieu. Racontez, verset 3, racontez-le à vos enfants, que vos enfants leur racontent à leurs enfants et que leurs enfants à la génération suivante. Ce triple ordre de raconter aux générations suivantes cet événement souligne encore la gravité, l'importance. Et un tel malheur se doit d'être conservé dans la mémoire collective du peuple. On ne doit pas oublier ce jour. Chacun a la responsabilité de transmettre à la génération suivante l'histoire de cette invasion de sauterelles. Elle doit marquer au fer rouge l'histoire du peuple de Dieu. Se réveiller, verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez, vous tous buveurs de vin. Joël s'adresse spécifiquement ici aux ivrognes, aux buveurs de vin, ce qui peut aussi désigner des personnes qui menaient une vie luxueuse, le vin étant un produit relativement cher à cette époque. Une vie luxueuse loin de tout souci. Et un tel événement, une telle invasion, doit les réveiller de leur somnolence spirituelle. Dieu, à travers Joël, appelle le peuple à se réveiller pour être amené à la réalité du jugement de Dieu sur eux. Se lamenter, au verset 8 et au verset 13. Verset 8, « Lamente-toi comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. » Et verset 13, « Prêtre, couvrez-vous de sacs et pleurez, lamentez-vous, serviteur de l'autel. » Face à une situation si tragique, le peuple et tous les prêtres doivent se lamenter, pleurer devant Dieu. Le peuple doit se lamenter comme une vierge qui se revêt d'un sac, symbole de deuil, suprême, symbole suprême de la douleur. Il s'agit de l'image terrible d'une femme, d'une jeune femme, dont le fiancé est tué même avant leur mariage, quelque temps avant leur mariage. Les prêtres aussi doivent se lamenter de la même manière, car le service de l'Éternel ne peut pas se poursuivre. Jeûner, verset 14. Proclamer un jeûne, une assemblée solennelle. Devant une telle situation, Joël encourage le peuple à proclamer un jeûne national. Dans beaucoup de religions, le jeûne est un moyen de démontrer son dévouement spirituel, pour d'une certaine manière faire pression à la divinité. Il s'agit alors d'une sorte de discipline spirituelle, une discipline de vie pour les plus spirituels. Une manière de démontrer une sorte de prouesse spirituelle. Et peut-être pensons-nous aussi au jeûne de cette manière. Ce n'est pas ça le jeûne biblique, absolument pas. Ce n'est pas une prouesse spirituelle pour les plus spirituels, le jeûne biblique. Non. Dans la Bible, le jeûne est un moyen d'exprimer une disposition de cœur. Quelle disposition de cœur ? La tristesse, l'humiliation, la détresse devant Dieu. Cette disposition de cœur que dénote le jeûne biblique. Je ne mange pas pour démontrer encore davantage ma faiblesse. Le fait de ne pas manger est là pour démontrer ma faiblesse, ma dépendance devant Dieu. Pas pour montrer une prouesse spirituelle quelle qu'elle soit, mais pour montrer ma faiblesse, mon humiliation, ma dépendance devant Dieu. Et enfin, crier. Verset 14, crier à l'Éternel. Et verset 19, c'est Joël lui-même qui le dit, c'est vers toi que je crie, Éternel. Joël appelle enfin tout le peuple à crier leur douleur à l'Éternel, pour implorer sa miséricorde, sa grâce. Et solidaire de son peuple, Joël lui-même crie à l'Éternel, au nom du peuple, pour obtenir cette miséricorde. Devant cette affreuse calamité, la seule chose à faire est de crier à Dieu pour réclamer sa miséricorde, pour espérer sa compassion, pour qu'il soulage la misère de son peuple. J'ai une question pour chacun d'entre nous. Quel est le dernier événement dans votre vie, personnelle, ou dans notre vie d'église, qui nous a amenés à l'une ou l'autre de ces réactions devant Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez été saisi d'une crainte respectueuse devant le Dieu Tout-Puissant? À quand remonte la dernière fois où vous avez tendu l'oreille pour bien écouter ce que Dieu voulait vous dire? À quand remonte la dernière fois où vous avez bien pris le temps de transmettre à vos enfants ou à des plus jeunes dans l'assemblée des enseignements forts que vous avez découverts dans la parole de Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes lamenté sur votre péché devant Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez jeûné pour démontrer votre dépendance, votre faiblesse devant Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez véritablement crié vers Dieu pour implorer sa miséricorde, sa grâce envers vous? À quand? C.S. Lewis a écrit: Dieu murmure dans nos plaisirs. Il parle dans notre conscience. Mais il crie dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour faire sortir de son indifférence un monde sourd. Faire sortir de son indifférence un monde sourd. Sommes-nous, est-ce que je suis devenu tellement indifférent, tellement sourd, quoi qu'il arrive dans ma vie personnelle, communautaire? Avons-nous le cœur tellement dur qu'il est incapable de réagir lorsque Dieu pointe du doigt telle ou telle chose dans ma vie? Je prie pour que ce ne soit le cas d'aucun d'entre nous ce matin, parce qu'il est terrible d'être indifférent quand Dieu nous appelle à le craindre, quand Dieu nous appelle à nous lamenter devant lui, quand Dieu nous appelle au jeûne, quand Dieu nous appelle à crier envers lui. Par trois fois dans notre texte, Joël fait le rapprochement entre cette invasion de sauterelles et le jour de l'Éternel. Cette invasion est une image du jour de l'Éternel qui se réfère à l'intervention directe de Dieu pour juger, anéantir le mal. Et ces trois mentions du jour de l'Éternel nous montrent qu'il s'agit d'un jour de dévastation, d'un jour de terreur et d'un jour de désespoir pour tous ceux et toutes celles qui en sont frappés. D'abord, un jour de dévastation. Au verset 15, il est écrit: quel jour terrible! Oui, le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. D'après ce verset, qui est à l'origine de ce jour terrible? Dieu lui-même et personne d'autre. C'est Dieu lui-même qui déclenche ce jour. La dévastation est envoyée par Dieu contre qui? Contre son propre peuple. Et cela peut nous choquer doublement, peut-être. Le jour de l'Éternel est dirigé par Dieu contre le peuple de Dieu. Le jour de l'Éternel est dirigé par Dieu. Lorsque nous apprenons qu'il y a eu dans le monde telle ou telle catastrophe naturelle, ça nous attriste souvent. Et nous pensons que Dieu est triste aussi de cette situation. Et c'est tout à fait possible, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut toujours voir les choses uniquement avec cet œil-là, sous cette optique? Nous ne sommes plus habitués à considérer de telles catastrophes comme pouvant aussi être, parfois, dans certains cas, des signes du jugement de Dieu, alors que c'était la manière évidente de le considérer sous l'Ancien Testament. Alors certes, c'est vrai, il y a des différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi un régime particulier avec un peuple terrestre, le peuple d'Israël. Et du coup, les bénédictions et malédictions, châtiments de Dieu, étaient avant tout d'ordre terrestre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu a établi une relation spirituelle avec différents peuples. Et nous sommes une représentation à travers les différentes nationalités que nous représentons ce matin. Christ s'est aussi révélé comme celui qui a souffert, et le sens de la souffrance en tant que tel a donc aussi été changé en bonne partie. Le malheur n'est plus automatiquement lié à un jugement de Dieu. Mais nous risquons, je crois, parfois d'oublier que même aujourd'hui, certains malheurs, certaines catastrophes peut être dirigée par Dieu. Il me semble que nous devrions au moins nous poser parfois la question si Dieu ne veut pas aussi nous avertir de quelque chose lorsque tel ou tel malheur frappe notre monde. Le jour de l'Éternel est dirigé contre le peuple de Dieu. Joël annonce un jour désastreux pour le peuple de Dieu lui-même, et pas pour une nation païenne. Le peuple d'Israël devait avoir, a priori, une toute autre idée du jour de l'Éternel. L'Éternel est leur Dieu. Donc le jour où il allait enfin se révéler avec toute sa puissance, le peuple devait penser qu'il allait leur apporter la victoire, la bénédiction. C'est assez logique, non, après tout. Un peuple et son Dieu, c'est solidaire, ça va ensemble. Le boulot d'un Dieu, c'est normalement de donner la victoire à son peuple pour montrer qu'il est plus fort que les autres dieux. Et j'imagine que c'était le raisonnement de beaucoup parmi le peuple d'Israël à ce moment-là. Et c'est peut-être le raisonnement de beaucoup parmi nous ce matin encore. Le boulot de Dieu, c'est de me rendre heureux. Le boulot de Dieu, c'est de me rendre heureux. Ce n'est absolument pas le cas ici. Dieu frappe du jour de l'Éternel son propre peuple. On ne sait pas exactement pour quelle raison. On ne sait pas quel était le péché du peuple, quelle était la situation exacte. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple avait des choses à se reprocher, puisque, on va le voir dans la suite du texte, avec cette série, le peuple va devoir demander pardon à Dieu pour certaines choses. Et cela, je crois, nous apprend une leçon précieuse à propos de Dieu. Dieu ne se laisse pas domestiquer. Il ne se laisse pas mettre au service des hommes. Il ne tolère pas le péché. Et il doit intervenir pour être fidèle à lui-même. C'est pour ça que le jour de l'Éternel est un jour terrible pour son propre peuple même. Nous sommes toujours tentés de nous fabriquer une image de Dieu comme d'un Dieu commode, qui fait ce qu'on lui dit, qui est là pour servir nos propres projets, qui est là pour nous arranger, qui est là pour nous rendre heureux. Un Dieu domestiqué. Une telle image de Dieu est à l'opposé de Dieu tel qu'il se présente dans la Bible. Dieu n'est pas un Dieu qui se domestique. Dieu est le Tout-Puissant, l'Éternel trois fois saint. Un jour de terreur, chapitre 2. Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Dans ces versets, le but de prophète Joël est d'inspirer la terreur à propos du jour de l'Éternel. Il évoque la sonnerie du cor, l'alarme qui est donnée. Il parle d'un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. Il s'agit d'un oxymore, une figure de style qui consiste à lier deux mots qui ne vont pas ensemble. Ce n'est pas logique, un jour de ténèbres. Ce n'est pas logique. Le jour, c'est lumineux. La nuit, c'est ténébreux. Et il s'agit d'un jour de ténèbres. Pour bien mettre l'accent sur la nuit, sur les ténèbres, sur le jugement, sur la terreur que cela devrait avoir comme impact sur le peuple. Et enfin, un jour de désespoir, au verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter? Qui pourra le supporter? Notre passage se termine avec cette terrible question. Qui pourra le supporter? Et la réponse est évidente. Personne. Absolument personne. Ce jour est un jour de désespoir, un jour sans aucun espoir d'y réchapper. Nos biens ne nous sauveront pas. Notre statut social ne nous sauvera pas. Nos relations ne nous sauveront pas. Nos capacités ne nous sauveront pas. Nous sommes fichus. Il n'y a aucun espoir devant le jour de l'Éternel. Et c'est tout le message de cette première partie du prophète Joël. Il n'y a aucun espoir. C'est la conclusion de ce passage et elle est terrible. Et j'ai bien conscience que c'est terrible et décourageant de terminer une prédication ainsi. Mais c'est ce texte qui nous dit cela. Il n'y a aucun espoir. Et c'est la vérité de l'Évangile aussi. l'évangile commence avant tout par une terrible nouvelle, par une très mauvaise nouvelle. Et si on n'a pas compris la mauvaise nouvelle, on n'a absolument rien compris à l'évangile. À ce propos, Paul Tripp écrit « Le désespoir est la seule porte vers l'espoir. Aussi longtemps qu'on croit encore en nous-mêmes, en notre propre sagesse, en nos forces, en notre justice, nous n'implorerons pas la miséricorde divine. Aussi longtemps que nous cultivons l'espoir de pouvoir nous en sortir sans l'aide de Dieu, nous contesterons la réalité du péché qui est en nous et continuerons à gérer nous-mêmes nos vies. L'individu qui implore le pardon reconnaît qu'il n'est plus le maître, que sa vie ne lui appartient pas, qu'il a transgressé les limites divines et qu'il n'a aucun moyen de gagner les bonnes grâces de Dieu. Alors, dans son désespoir, il court vers le seul Dieu d'espoir, les mains du Rédempteur, prêt à pardonner, à restaurer. Notre texte termine avec cette question terrible. Qui pourra supporter le jour de l'Éternel? Et cette réponse encore plus terrible. Personne, absolument personne. Aujourd'hui, je vous ai apporté la plus terrible des nouvelles. Nous sommes sans espoir face au jour de l'Éternel. Et je prie que vous ne soyez pas indifférents à cette nouvelle, à ces paroles de Joël, mais qu'au contraire, cela hante véritablement vos pensées. Parce que comprendre cette mauvaise nouvelle est obligatoire, essentiel, pour saisir la bonne nouvelle. Heureusement pour nous, il y a une bonne nouvelle. Et le chapitre 2, heureusement pour nous, se poursuit. Et vous ne voulez surtout pas, mais surtout pas, manquer la prédication de Ricardo de dimanche prochain sur cette deuxième partie. Que nous puissions avoir un temps de recueillement et nous poser cette question consciemment. Qui pourra supporter le jour de l'Éternel ? Amen.